Non.
Ah non.
Non.
Très bien.
J'ai rien d'intéressant à dire.
Pour arriver à la décroissance,
il but de l'alcool et fumer du cannabis.
Tout avait commencé dans le calme.
Soupçonné d'avoir reçu des pots de vin, toujours au Proche-Orient.
Pour répliquer.
Eux, ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
Un fasciste, la gangrène, on est fini pour la gangrène.
L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède? Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans ce KNU Info du jeudi 3 mars 2021. Nous sommes ensemble pour une petite heure d'actu. Nous allons parler ce soir avec Laurent de plein de petites choses. Nous parlerons de la commune de Paris avec Laurent. Nous irons faire un tour du côté de la Tunisie et du Japon. Nous parlerons des archéologues. Nous reviendrons pas particulièrement sur les occupations. On pourra vous reciter un petit peu les lieux si vous avez manqué l'heure précédente qui accueillait donc les occupants et occupantes, enfin pas tous et pas toutes, oui. De l'Opéra de Lyon. Donc c'était dans Grain de Sable, l'émission de 18h à 19h sur Radio Canu tous les 15 jours. Nous irons du côté de la confrontation entre les artistes et les réactionnaires. Nous parlerons de l'art de l'insulte. C'est un bienfait de la diplomatie. Nous parlerons de ce qui se passe à Lyon, des fachos, d'une somme de 802 250 € et de carte d'identité. Ça sera avec toi, Laurent, mais tout de suite, la commune de Paris.
Oui, on va faire un rappel historique. Le 18 mars, donc nous sommes un 18 mars, le 18 mars 1871, le gouvernement d'Adolphe Thiers tente de désarmer la garde nationale et les Parisiens, qui étaient aussi armés, en prenant le contrôle des canons de la butte Montmartre. L'événement, qui aurait pu être anecdotique, se transforme en révolution qui durera 2 mois et marquera l'histoire, en tout cas certains militants, par la suite. C'est donc il y a plus de 150 ans, il y a donc 150 ans aujourd'hui, que Parisiens et Parisiennes, même exténués, humiliés, fatigués par la guerre, la faim, la misère, vont essayer de construire un monde nouveau, sans classe, sans exploitation, sans État, sans Église, sans maître, quelque part. Souvent qualifiée de sauvage, d'anarchique, la Commune de Paris était en partie portée par des pauvres, les pauvres de Paris, pauvres qui ont toujours été un objet de haine, tant pour la bourgeoisie de gauche, d'ailleurs, que pour les conservateurs et les monarchiques au pouvoir, monarchistes au pouvoir en partie à l'époque. La répression sans merci dont elle a été victime, déclenchée par l'armée française, et la violence qu'elle a impliquée sont à l'origine de plaies qui ne se sont jamais vraiment refermées. D'ailleurs, la Commune de Paris de 1871 n'a jamais vraiment fait partie de la mémoire collective consensuelle globale de la population. Elle n'est quasiment pas étudiée dans les écoles françaises encore aujourd'hui. Alors, pour célébrer cet anniversaire, la maire de Paris, Anne Hidalgo, doit planter un arbre ce mois, un arbre mémorial, à Montmartre, bien évidemment, de là où est partie la révolte, la révolution, dirons-nous même, sur le square Louise Michel, qui porte bien son nom, hein, c'est le nom d'une des plus célèbres communardes, comme on les qualifiera par la suite, sera envahie donc par les Parisiens qui vont représenter des silhouettes pour marquer, représenter les boulangers, les cordonniers, les lavandières qui avaient pris le contrôle de la capitale en 1871. Intitulé « Nous, la Commune », le rassemblement donnera le coup d'envoi d'une série d'expositions, de conférences, de concerts jusqu'au mois de mai. Alors, tout ça, bien évidemment, avec les règles et les problématiques liées au Covid et peut-être un confinement qui est en train de s'annoncer pour Paris. Du coup, il y aura peut-être pas mal de choses annulées. Malheureusement, pour une fois qu'on fêtait la Commune, c'est un peu triste. Bien sûr, avec la Commune de Paris, nous parlons d'un grand groupe de citoyens, on peut dire ça comme ça, qui se sont rassemblés pour prendre leur destinée en main contre l'occupant venu d'Allemagne d'abord, contre la bourgeoisie et leurs alliés monarchistes ensuite. Il y avait quelque chose de moderne, hein, quelque part, dans ce que défendait la Commune. 150 ans, c'est quand même l'époque quasi moderne. Les communards et les communardes se sont battus pour avoir des représentants politiques légitimes, responsables. Ils voulaient donner le droit de vote aux femmes, hein, ça arrivera bien plus tard dans les faits, mais c'était le but. Ils ont joué un grand aux femmes parce que, en fait, elles ont joué un grand rôle dans l'histoire de la Commune, même si, quand on regarde les assemblées, il y a quand même encore beaucoup d'hommes qui prennent la parole, mais Louise Michel sera l'exemple marquant, elle travaillera dans la santé, comme il y avait beaucoup de femmes aussi, et elle aura un rôle et un poids important. Voilà. Ils prenaient, on rappelle aussi, l'égalité des salaires, ils ont réquisitionné des logements vides pour notamment les pauvres et les sans-abri. La Commune a donné la citoyenneté à pas mal d'étrangers aussi, estimant que la nationalité et la xénophobie, ils s'en foutaient, et assuré un libre accès à la justice, à la santé, à une campagne sanitaire importante durant les deux mois où elle était là. Mais les hommages prévus aujourd'hui à Paris, à partir de Joseph Perry, ulcèrent la droite, notamment un certain Rudolf Granier, qui s'est pas mal exprimé, qui est quelqu'un qui habite Montmartre, qui est membre du conseil municipal de la ville de Paris. Lui, il a dit qu'officiellement, il avait l'intention de boycotter l'événement du square Louise Michel, là, pour faire cette commémoration, cette célébration. Alors lui, il dit que c'est une provocation, que les commémorations, ça ne le dérange pas, mais là, c'est une célébration et que ça le dérange. Et alors, je vais citer ce qu'il dit après, parce que c'est un tissu de bêtises. Écoutez, quand la gauche défend la Commune, c'est comme quand la gauche défend le communisme. Alors, c'est un des gars qui n'a pas compris la différence, mais ça, bon, ça a toujours été un petit peu triste. On en parlera. Les communistes ont quand même bien essayé de revoler les idées et s'approprier l'histoire de la Commune, quand même. Alors, je continue. Il disait que c'était de belles idées, juste qu'elles n'ont pas été mises en œuvre comme il fallait. Mais que l'on parle de communisme ou de la Commune, ça s'est terminé dans un bain de sang. Et si une idéologie passe par la violence meurtrière, alors, selon moi, ce n'est pas à la politique de célébrer cette idéologie. Alors, on notera que ce militant de droite nous rappelle que la Commune a certes été combattue par toutes les droites, mais aussi récupérée par une partie de la gauche, notamment les communistes, qui se sont appropriés une partie de cette mémoire de cette courte période révolutionnaire où les idées anarchistes, libertaires, donc démocratie directe, mandat impératif, par exemple, étaient bien plus présentes que les idées communistes, notamment défendues par les défenseurs de cette dictature du peuple. Dans les faits, assiégée de tous côtés, la Commune, qui survit tant bien que mal durant 72 jours, est ensuite écrasée dans la violence. Comme l'écrit Émile Zola, jamais plus épouvantable crise n'a éclaté dans une grande ville. Au moins 3000 communards, dont nombre de femmes et d'enfants, et beaucoup d'enfants, ont été massacrés, assassinés dans la bataille sur les barricades. Et plus de 20 000 seront ensuite fusillés, donc assassinés, par des pelotons d'exécution pendant la semaine sanglante, qui a lieu donc fin mai, du 21 au 28 mai. Alors, du coup, cet élu de droite, M. Granier, qui dit que c'est parce qu'il y a eu de la violence, on rappelle que la violence, même si elle a existé au sein de la Commune, bah, pour lutter contre leurs ennemis, elle a avant tout été mise en œuvre par les forces de l'État et l'armée française, hein, qui a assassiné, grosso modo, on estime entre 20 et 30 000 personnes. Alors, cette répression s'inscrit dans le cadre de la campagne de 1871 menée par le gouvernement de Versailles. C'est là où ils s'étaient réfugiés, hein, quand les communards et les communards ont pris le pouvoir à Paris. Donc contre toutes les insurrections communalistes, puisque ces insurrections, ces communes, elles existaient dans plusieurs villes, dont Lyon, où la révolte s'était déplacée de la Croix-Rousse pour aller, c'était une première, à la fosse aux ours, à la Guillotière. Donc là, il y avait une commune qui avait commencé un peu avant, celle de Paris, qui sera écrasée elle aussi, bien évidemment, même si c'est de manière un peu moins sanglante. Et du coup, aujourd'hui encore, on a des politiques de droite, mais parfois même de gauche, qui se battent encore contre ce qu'a été cette commune de Paris de 1871. Et la température est montée à Paris, où il y a des enjeux de politique aussi derrière, de politique moderne, actuelle, et c'est tombé sur le Sacré-Cœur. J'ai trouvé ça très drôle. Le Sacré-Cœur domine le fameux square Louis-Michel à Montmartre. Donc cette basilique, qui est relativement immonde, hein, on peut quand même le dire en termes d'architecture, surtout plantée au milieu de ce quartier, a été conçue au départ comme un acte de pénitence nationale après la guerre de 1871, mais aussi contre la période révolutionnaire communale. C'est vraiment un monument que les catholiques ont financé contre, en partie, les communards. Donc elle a un sens. Elle a un sens négatif pour nous, gens progressistes et de gauche. Voilà. Donc, d'ailleurs, la mairie était tellement embêtée parce qu'ils voulaient faire inscrire cette moche basilique blanche sur une liste qui permettrait de recevoir des subventions de l'État, ce qu'elle ne peut pas avoir aujourd'hui, elle vit du tourisme. La coalition d'Hidalgo l'a mis de côté pour l'instant, ce n'était pas le moment de parler de ça. Et d'ailleurs, M. Granier a été énervé, il a dit « il y a des gens dans la coalition de Mme Hidalgo qui veulent détruire le Sacré-Cœur ». Parce qu'il le voit comme un monument contre la commune, ce qui est une réalité historique. Pas que au départ, c'est aussi contre suite à cette défaite de la guerre de 1870, contre la Prusse, contre les Prussiens très exactement, mais qui a été aussi construite contre les communards. Donc ainsi, dès le commencement du soulèvement, les élites conservatrices, je mélange histoire et présent du coup, appellent le gouvernement d'Adolphe Thiers à châtier durement les communards, et on va parler de la faim et des médias, parce qu'en fait, le point commun finalement qui existe entre la commune de l'époque et aujourd'hui, et qui n'a pas changé finalement, c'est les médias conservateurs, les médias dominants, qui ont toujours un peu le même rapport aux révolutions, aux révoltes, aux manifestants, aux manifestantes. On peut citer Louis Veillot, qui était membre d'un quotidien de droite monarchiste, qui s'en prend au début à la mollesse d'Adolphe Thiers, parce qu'il était, au début, il n'a pas assassiné tout le monde tout de suite, il a attendu un peu. Il a attendu 2 mois pour assassiner tout le monde. Il dit, le gouvernement de Paris est pitoyable, il laisse la ville sans défense, odieux de nos pères, suscitez-nous un homme. Vous savez, ces gens de gens attendent un homme providentiel. Pensez peut-être à Napoléon, tout ça, hein, ou à un roi, hein, puisqu'il est monarchiste, ceci dit. La comtesse de Ségur écrit « M. Thiers ne veut rien faire qui contrarie les rouges. Saint-Thiers a pour ses abominables scélérats des tendresses paternelles. » Je vous invite à vous débarrasser des livres de la comtesse de Ségur, c'est horrible. Le camp monarchiste impatiente, il n'est pas le seul. La presse républicaine, donc de gauche, dite modérée, par opposition aux jacobins qui, eux, étaient défenseurs de la commune. Eux aussi, cette presse dite modérée, de gauche, elle attaque à mort les communards et les communardes. Je vais donner quelques exemples. Et la presse de droite classique, la presse républicaine de droite aussi, qui existe déjà. On aura une phrase que j'adore, hein, du Figaro, mais que je citerai après, qui donne une idée de ce que représente, ce que pensaient et ce que pensent toujours les gens de droite sur les mouvements révolutionnaires. J'ai l'Électeur libre qui condamne donc un journal d'Union républicaine, condamne le soulèvement de la commune en disant « Tout homme de cœur se lèvera pour mettre un terme à de semblables forfaits ». Voilà, et un autre journal qui s'appelle « Le drapeau tricolore », qui est lui aussi républicain modéré. « Dût-on noyer cette insurrection dans le sang ? Dût-on l'ensevelir sous les ruines de la ville en feu ? Il n'y a pas de compromis possible ». C'est chaud, hein, quand même, la presse à l'époque. Alors j'ai plein d'exemples, je vais pas tous les dire. Je vais juste dire l'extrait d'un article du Figaro, donc républicain aussi, mais voilà, plus à droite, hein, déjà conservateur à l'époque. Il reste à M. Thiers une tâche importante, celle de purger Paris. Jamais occasion pareille ne se présentera. Allons, honnêtes gens, un coup de main pour en finir avec la vermine démocratique et sociale. Nous devons traquer comme des bêtes fauves ceux qui se cachent. Voilà, alors, bon, il était soi-disant républicain, mais il n'aimait pas la vermine démocratique. Hein. Donc il n'aimait pas la démocratie, déjà. Hein. Bon, voilà, il y en a plein comme ça. Alors pourquoi une telle fureur, à l'époque, contre la Commune, de la part des journalistes, d'une grosse partie des intellos? En fait, il y a très peu d'exemples d'intellos qui ont soutenu vraiment la Commune. On a Jules Vallès, qui a écrit L'Enfant, qui a écrit pas mal de livres, qui se passent pendant cette période-là. Victor Hugo, hein, qui était conservateur et qui viendra républicain socialiste et qui soutiendra aussi. On a un grand peintre, celui qui a fait L'Origine du Monde, Courbet, qui va être obligé de payer qui va remplacer une immondice par une autre immondice, une colonne. Vous connaissez tous, si vous êtes déjà allé à Paris. En fait, la plupart des intellos de l'époque n'étaient pas prêts à accepter une révolution aussi radicale. On a l'exemple de la romancière George Sand, qui était plutôt classée à gauche, qui était très hostile à la Commune parce qu'elle avait peur qu'ils s'en prennent assez bien. Et quand la Commune sera écrasée dans le sang, elle dira « mon mobilier est sauvé ». Voilà, c'est horrible hein, quand même de penser à ça alors qu'ils venaient de massacrer une trentaine de milliers de personnes. Voilà, donc il y a des journaux hein, qui existent, il y a le Cri du Peuple, il y en a quelques autres hein, qui vont émerger, qui vont disparaître par la suite, et tout ça va se terminer dans le sang. On rappelle que Adolphe Thiers, donc le criminel en chef hein, de ces massacres, a toujours des rues à son nom. Il y en a une à Villeurbanne, entre Lyon et Villeurbanne. C'est quand même horrible d'avoir un assassin comme ça, d'État, qui a toujours une rue à son nom. Voilà, je voulais reparler un petit peu de cette Commune de Paris, des commémorations qui vont sûrement être compliquées avec le Covid, et de la réaction des gens de droite et de certains de gauche qui ont toujours du mal avec la Révolution et avec la notion de peuple. Pour aller plus loin sur la Commune, il y a quand même l'abbé des références, hein, le Cri du Peuple, de Tardy, qui est issu d'un livre tout aussi bien de Jean Vautrin. Il y a des livres de photos, notamment pas très chers, qui sont géniaux, parce que c'est le premier événement historique français qui sera documenté par de la photographie. Et c'est magnifique. Et puis, vous avez le film incroyablement bizarre qui s'appelle La Commune de Peter Watkins, voilà, où c'est un mélange de passé, de présent et de futur. Enfin, ouais, de futur, c'est une expérience artistique, ce film. Il y a plein de choses autour de la Commune, puisque c'est les 150 ans. Ça, c'est pour moi les choses importantes à retenir. Voilà, j'ai été un peu long, mais c'est un bel événement que la Commune. Il y a plein de chants, hein, la Semaine Sanglante, tout ça, des chansons toujours révolutionnaires.
Écoute, nous allons poursuivre avec ce qu'on pourra appeler une rebelle et une révolutionnaire. En tout cas, elle en a déjà pris le chemin et elle en prendra encore le chemin. Il s'agit de Rania Hamdouni, elle est tunisienne. On a appris hier qu'elle avait été libérée, donc en Tunisie. Alors Rania, elle est connue pour être une féministe, pour être une militante des droits LGBT. Elle avait été... C'est une grande gueule, Rania, c'est ça qu'en fait il faut dire. Elle s'est fait beaucoup repérer hein, dans les manifestations, et en particulier par la police, et ça n'a pas plu. Donc ce qui est bien, c'est que le juge a allégé la peine à une amende de 200 dinars. Bon, ça reste quand même une sanction, hein, il faut bien le dire. Alors elle avait été arrêtée le 27 février dernier, Rania, et elle a été interpellée dans un commissariat, puisque Rania est allée dans un commissariat porter plainte pour harcèlement, contre le harcèlement commis par des policiers en civil, et ça s'est pas très bien passé, et elle s'est retrouvée arrêtée, passée devant un juge. Il faut dire qu'elle s'en était déjà pris à la police pour ceux qui lui avaient lancé des insultes homophobes. Lui avait confisqué sa carte d'identité. Après ça, les syndicats de policiers avaient lancé une campagne contre elle, en particulier sur les réseaux sociaux, puis une campagne de harcèlement. Alors, Heureusement, elle a eu du soutien hein, des organisations en Tunisie, mais pas seulement, aussi à l'étranger. Et mardi, un nouveau communiqué venait demander sa libération, chose qui a été faite mercredi. Alors on pense qu'elle va continuer hein, à subir ce harcèlement et cette pression, comme d'autres en Tunisie, en particulier sur les questions de l'homosexualité. Je vous rappelle que les relations homosexuelles sont passibles de prison en Tunisie. Donc voilà, mais il y a des battants et des battantes, même face à cette répression. Et puis, c'est au Japon où un tribunal a estimé mercredi que la non-reconnaissance du mariage entre personnes du même sexe était anticonstitutionnelle. C'est ce que déclare ce tribunal. Alors, c'est une première et c'est plutôt une bonne chose. C'est une avancée dans un pays conservateur et réactionnaire, hein, quand même, extrêmement patriarcal. Alors, c'est une bonne chose, hein. C'est le tribunal de première instance de Sapporo qui a pris cette décision, qui estime que la non-reconnaissance du mariage entre deux hommes ou deux femmes était contraire à l'article 14 de la Constitution, qui stipule que tous les citoyens sont égaux devant la loi. C'est simplement un fait qu'annonce ce tribunal, hein. Ce n'est pas une revendication politique. Alors, pour l'instant, le gouvernement et l'État, d'une manière générale, hein, estiment que ce n'est pas prévu dans la Constitution de 1947, puisqu'on parle dans cette Constitution de mariage, d'un consentement mutuel des deux sexes. Là, on parle à chaque fois de sexe, on ne parle jamais de genre, bien évidemment. C'est sur ça que se base encore aujourd'hui le gouvernement. Mais c'est une bonne chose parce que ce sont des couples qui ont porté plainte et qui donc voient une avancée dans leur dossier, leur demande de pouvoir se marier comme les unes et les autres, qui peuvent être prévues par la Constitution, et pour que les uns et les unes puissent aussi faire comme elles l'entendent, se marier si elles le désirent. Donc c'est, voilà, petite avancée, on va prendre. Et puis j'avais envie de vous parler, encore une fois, les archéologues sont en grève. Alors, il y a eu plusieurs mouvements en France. J'ai retenu les mouvements de Nîmes avec une intersyndicale CGT-CNT. Ce sont les archéologues de l'INRAP hein, Midi-Méditerranée qui se sont rassemblés à la Maison Carrée. Les fouilles continuent beaucoup à Nîmes, hein, vous le savez, donc il y a beaucoup d'archéologues. Et c'est une profession qui est parmi les moins bien payées de la fonction publique. Un secteur d'activité dans lequel, en plus, on voit l'arrivée du secteur privé pour rafler des fouilles. Donc il y a déjà un déséquilibre qui se crée. Beaucoup de CDD à la place des CDI dans le domaine. Et puis beaucoup de précaires dans la fonction publique, des salaires très bas. Et pourtant, c'est des gens qui ont fait un sacré paquet d'études. Hein. Donc si on comparait le niveau d'études, ce qui se fait dans notre société au salaire, ben, on peut dire que globalement, on leur lance des cailloux. Hein, ceux qu'ils ont trouvés pendant les fouilles. Donc il y a une demande de revalorisation des salaires, une politique de l'emploi au sein de l'INRAP hein, particulièrement, et puis une reconnaissance de la part de leur direction, parce que comme dans beaucoup de domaines de l'archéologie, il semblerait qu'il y ait quand même des tendances à l'autorité. Il y a l'autoritarisme dans certains établissements. Ça se veut très hiérarchisé hein, dans certains endroits, donc il y a des relations très désagréables. Et pourtant, pour les archéologues hein, de terrain, c'est un métier passion, comme on dit au ministère du Travail. C'est un métier où on bouge tout le temps. Et aujourd'hui, ce qui est expliqué par des archéologues, c'est que le problème, c'est que oui, ok, ils touchent le SMIC à la fin du mois, mais le problème, c'est que c'est avec le jeu des primes. Donc, de partout, hein, on demande à ce que les salaires soient élevés et pas que au SMIC, et qu'en tout cas, ce ne soient pas les primes qui fassent augmenter les revenus en bas de la feuille de paye. Il y a vraiment aussi l'idée qu'il faut sauver l'archéologie en France, parce que les politiques publiques sont en train un peu de mettre moins de budget, enfin pas un peu, mettre moins de budget. Il y a moins aussi de volonté de maintenir des équipes en place, parce que là, il y a beaucoup d'archéologues qui vont partir à la retraite et il va falloir remplacer ces gens. En tout cas, c'est ce qu'espèrent évidemment ceux et celles qui sont en grève cette semaine, c'est que ces gens soient remplacés. La crainte, c'est qu'ils ne le soient pas. Donc voilà, les archéologues sont assez régulièrement en grève parce que les choses ne s'améliorent jamais. Il y a bien des discussions, mais le débat tourne par exemple sur les salaires, sur le fait que non, un salaire, c'est sans la prime, et ensuite il y a des primes parce qu'il y a des déplacements, parce qu'il y a je sais pas quoi, enfin voilà. J'avais aussi envie de vous parler de ça. Alors je vous ai dit au début qu'on n'avait pas trop vous parler des occupations des salles à Lyon, ça a été fait hein, par Gras de Sable dans l'heure qui précédait le Canu Info. Juste pour redire que les propos de Madame Roselyne Bachelot ont bien aidé quand même à la cause, hein, puisqu'elle avait expliqué que les occupations étaient inutiles et dangereuses.
Du coup, c'est le meilleur moyen pour motiver tout le monde.
Ouais, parce que je pense qu'ici, la fin de semaine, on devrait être une cinquantaine de lieux un peu partout en France. Donc, à Lyon, TNP, évidemment, à Villeurbanne, on n'attendait pas moins de ce lieu, et des gens qui y travaillent. Et puis l'Opéra de Lyon. Alors l'Opéra de Lyon, a priori, l'ambiance, l'accueil a été un peu plus frisqué quand on lit le communiqué de presse de la direction de l'Opéra de Lyon. Franchement, c'est un peu naze. Alors oui, ils amènent leur soutien, mais bien mollement. En tout cas, ils disent qu'ils sont à l'écoute. Alors déjà, moi, quand dans un communiqué de presse, on dit « nous sommes bien à l'écoute », je me dis que tiens, ah bon, il se cache où, le ou la communicante derrière le papier. Et puis surtout, on nous explique qu'il ne faudrait pas que ça gêne les répétitions. Donc on sent quand même que c'est un peu mou comme soutien. Mais en tout cas, de partout en France, ces occupations se poursuivent. Avec toujours une grande question, c'est est-ce que l'année blanche pour ceux et celles qui sont artistes et techniciens et techniciennes sous le régime de l'intermittence, ben, se retrouvent pas avec du rien demain, alors que rien ne fait pour qu'ils puissent gagner leur vie par leur travail, hein, parce que pour l'instant, c'est le chômage auquel ils et elles ont droit, bien évidemment. Donc voilà, et puis je voulais dire que LDLC avait fait sa petite promo. Ouais. Du culture bashing, non, j'en sais rien en fait.
Ah oui, carrément.
Allez, on y va. Mais,
l'opéra qui ponctionne déjà l'essentiel des subventions et qui laisse que des miettes à tous les autres qui se battent pour faire vivre une autre culture, LDLC décide de donner 200 000 euros, c'est ça, non, la somme ?
Oui, 200 000 euros à quatre lieux
à des gros trucs
principaux, c'est-à-dire l'Opéra de Lyon, le Théâtre des Célestins, l'Auditorium, et donc à l'Orchestre National de Lyon, et au Festival Les Nuits de Fourvière.
Donc à ceux qui en ont le moins besoin, montrant que LDLC, c'est une entreprise capitaliste, ce qui l'intéresse, c'est pas de donner de l'argent, c'est de se faire voir, c'est de la communication. Ils auraient été quand même bien plus intelligents, enfin perçu, en tout cas mieux perçu, s'il avait donné à des petites structures. En fait, il manque vraiment d'argent. Mais,
en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les entreprises vont faire des dons, du mécénat, parfois elles le font juste pour défiscaliser, parfois elles le font pour une implantation sur un territoire. Et puis, il ne faut pas oublier que, vous pourrez m'enregistrer, je vais le dire, il y a quand même des patrons qui ont un bon fond, et en particulier dans les plus petites entreprises, où là, on va avoir des gens qui sont passionnés sur les questions,
ouais,
et qui vont donner de l'argent parce que ça les intéresse profondément et qu'ils espèrent que ça va perdurer.
C'est pas le cas d'LDLC, du coup.
Donc c'est une réalité. Mmh. Là, non, on sent que c'est du mécénat sur un an.
C'est
et
de
que
la pub, en fait.
C'est voilà, un autre apport à tout ça. Alors, on parlait de réactionnaire, nous allons donc continuer avec toi, si tu veux.
Oui, parce que alors, vous avez peut-être, vous avez toutes vu les images de la 46e cérémonie des Césars, qui suscite de nombreuses réactions du côté de la droite, sur le fond et sur la forme, bien évidemment. Donc on rappelle, c'est notamment l'intervention de l'actrice Corinne Maziero, qui est arrivée habillée en âne, en peau d'âne en fait, avec du sang partout. Elle s'est déshabillée entièrement nue, et dans son dos c'était écrit « Rends-nous l'art, virgule Jean ». Un joli jeu de mots, du coup qu'on voit dans pas mal d'occupations réutilisées, cette phrase « Rends-nous l'art, Jean ». Alors c'était Jean Castex qui était visé, parce que je pense qu'ils ont arrêté d'essayer de parler à la ministre de la Culture, hein, qui ne sert plus à rien, on l'a bien compris ça, bien évidemment. Et en plus, elle ne les soutient pas, donc du coup, ils sont allés directement à la source du côté du Premier ministre. Donc voilà comment ça s'est passé. C'est un vrai acte politique, hein, qui interpelle le Premier ministre, qui interpelle tout le monde sur l'état de la culture aujourd'hui, surtout que la culture est fermée sur des structures où il n'y a pas de raison sanitaire qui justifie la fermeture, on le rappelle. Alors, si le geste de Corinne Maziero a fait réagir, on le note, les réactions classiques. Sur la réactionnaire CNews, elle a été le geste a été qualifié de déplorable et dégoûtant. Voilà, bon, c'est les gros médias, les classes dominantes sont choquées que cette cérémonie des Césars ait été attaquée et qu'elle ait été politisée. Bizarrement, Alors, il y a même un machin sur Twitter, là, avec un dièse devant, hein, qui dit César de la honte, où les gens vont exprimer leur haine contre cette politisation du César de la honte. Bizarrement, ces mêmes réactionnaires, l'année dernière, ils avaient applaudi à la cérémonie lorsque Polanski avait pu avoir les honneurs. Donc, bref, cette frange de droite soutenait l'année dernière ouvertement le violeur et le pédophile Polanski. Par contre, cette année, et c'était pas politique, hein. Et cette année, les artistes veulent retravailler normalement. Là, on les soutient pas. C'est pas surprenant non plus. Alors, cette année un peu plus loin, du coup, à part ces réactions réactionnaires traditionnelles de la droite, mardi dernier, Julien Aubert, député Les Républicains, qui est membre d'un groupe qui s'appelle Oser la France, donc bien à droite, hein, il a pris 9 copains de son groupe et ils ont écrit une lettre au procureur de la République pour quelque part, qu'il y ait une plainte et une action contre cette horreur qu'a été l'intervention de Corinne Maziero. Donc, dans leur communiqué, ils décrivent, je cite, une infraction délictuelle et se justifient en décrivant le geste de Corinne Maziero comme un état, attention, d'exhibition sexuelle. Ils expliquent qu'au cours de cette cérémonie, donc elle était entièrement déshabillée, elle a imposé sa nudité au public présent physiquement dans la salle et aux spectateurs de l'émission. On se dit, les mecs ne sont jamais allés voir des pièces de théâtre où il y a des fois des trucs largement plus surprenants, mais non, pas du tout, ils doivent jamais ils doivent regarder que TF1, ces gens en fait, quelque part. Donc ils ont utilisé l'argument de l'heure à laquelle la cérémonie était diffusée, et, parce qu'il y a un article du code pénal qui dit que l'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible au grand public, au regard du public, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Donc ils attaquent sur la nudité simple, alors que la nudité elle est quand même particulièrement peu sexuelle dans le cadre de l'intervention de cette actrice, de cette comédienne, puisque d'abord elle était badigeonnée de sang. Et puis que voilà, elle bougeait, et que c'était bien. Enfin, c'était pas la nudité qui était mise en avant, c'était le but, c'était de choquer, de montrer, comme elle le disait, hein, de montrer une situation qui signifie qui veut la peau de Roger l'Intermittent. C'était ça qui était sous-entendu derrière. Et on notera, bizarrement, que ces mêmes élus de droite, de cette droite réactionnaire, là, Julien Aubert en tête, ils n'ont rien dit sur les différentes choses liées à la nudité, les utilisations de la nudité qu'on a de manière assez courante. Alors dans la pub, l'instrumentalisation de l'image du corps de la femme, bon, ils ne le condamnent jamais, hein, bien évidemment. Mais bien plus que ça, la nudité est pas mal utilisée depuis ces dernières années. On a eu, il y a quelques années, un mouvement de femmes qui montraient leur poitrine en disant « il faut se faire dépister du cancer du sein ». Et puis, il y a quelques semaines, un groupe d'hommes connus, d'artistes, de sportifs se sont mis tout nus pour lancer une campagne de dépistage sur le cancer de la prostate. Et là, bizarrement, la nudité n'a pas choqué. Donc quand la nudité est politique pour sauver une profession, c'est choquant pour la droite réactionnaire. Quand c'est pour des problèmes pour des questions de santé ou d'autres questions, ça les gêne pas. Ou quand c'est instrumentalisé le corps de la femme, ça les gêne pas. Donc voilà, on vomira sur cette réaction toujours plus forte de la part de ces élus républicains. Et on voilà, tout notre soutien à tous les comédiens et comédiennes, quelle que soit leur forme de lutte, pour lutter contre les imbéciles qui nous gouvernent.
Bon, on va parler de Lewis Trondheim parce qu'on aime bien ce qu'il fait.
Moi j'adore. Non mais il est bien et politiquement il est plutôt pas mal.
Bon, alors des fois il nous surprend quand même un peu toujours, hein. Il faut quand même se souvenir que bon il s'énerve souvent avec les journalistes, ouais. Donc il avait quand même dit un jour Le Monde c'est caca. Ok. Et ben, vas-y Lewis, c'est parti.
Grand auteur, dessinateur de BD.
C'est vrai qu'on peut le redire. Voilà, il a eu le Grand Prix d'Angoulême.
Voilà la série des donjons, il a fait des trucs très personnels. Enfin, les Lapineaux, bien évidemment, enfin, c'est un immense artiste.
Trondheim, il a décidé de rendre sa médaille de chevalier des arts et des lettres qu'il avait obtenue sous le gouvernement Raffarin. C'était Donne-Dieu de Vabre qui lui avait remis. Ouais, vous avez tout oublié. Oh,
oublié, bon. Ouais.
Non, mais par exemple, Trondheim, quand il fait du selfie avec Macron, tu vois, il s'était un peu
fait
retoquer, quoi. Bon, ouais. Alors, donc, Lewis Trondheim a fait une vidéo. Il fait du grand spectacle et il explique, suite à tous les affronts du ministère et du gouvernement concernant le non-statut professionnel des artistes auteurs, je rends la médaille de chevalier des arts et lettres. Je sais que je ne suis pas connu, que c'est très certainement inutile, mais bon, je trie mes déchets pour sauver la planète, je continue à trier les déchets en jetant le ministère de la Culture. On ne veut pas d'argent, on ne veut pas de vacances, on veut un statut de professionnel pour récolter ce pourquoi on cotise. Là-dessus, donc, il va prendre sa petite médaille, il va le mettre dans une enveloppe pour la renvoyer, et il adresse ça au ministère de la Culture. Donc, Lewis Trondheim s'énerve. Alors, pourquoi il s'énerve ? Il s'énerve toujours pour la même raison, en fait. Il s'énerve sur ce qui est devenu le rapport Racine. Je rappelle, rapport avec 23 recommandations qui préconisait un assouplissement des situations sociales et fiscales des auteurs, la création d'une instance de la représentation des auteurs, un renforcement des droits des auteurs vis-à-vis des diffuseurs, une simplification de la relation des auteurs avec les administrations, et on sait bien que c'est compliqué, et un soutien pour la diffusion des œuvres en France et à l'étranger. Bon, le problème, c'est qu'il y a le syndicat des éditeurs alternatifs qui trouvait ça pas trop mal, qui trouvait que justement ça permettait de sortir de la précarité les auteurs, mais ça n'a pas été le cas de tout le monde. Alors, il s'en prend souvent au syndicat national de l'édition, Lewis Trondheim.
Ah, c'est pas le seul, il y a son collègue et son copain John Sfar qui fait pareil.
Voilà.
Il y a quand même un mouvement qui a l'air important.
Le truc, c'est que le rapport Racine, comme le ministère de la Culture reculait à chaque fois, il a été confié à Pierre Cirinelli et à Sarah Dormont. Pierre Cirinelli, il est professeur de droit, spécialiste du droit d'auteur Sarah Dormont, elle est juriste, spécialiste de la propriété intellectuelle. Le truc, c'est que depuis, il n'y a plus rien dedans. Alors, ça fait un peu râler tout le monde, et Lewis Trondheim a donc décidé de faire semblant de se couper les veines en renvoyant sa médaille. Voilà, c'était juste pour raconter tout ça dans l'énervement. Et alors, pour continuer avec l'énervement, on peut parler donc de l'art de l'insulte. Alors, vous avez donc entendu que Biden s'en est pris à Monsieur Biden s'en est pris à Monsieur Poutine, veuillez m'excuser. En fait, Monsieur Biden est sur ABC interrogé par George Stephanopoulos, qui lui demande « Pensez-vous que c'est un tueur ?» en parlant de Monsieur Poutine. Et Monsieur Biden répond « Oui ». Il n'a pas dit « C'est un tueur », il a dit « Oui ».
Il répond à la question du journaliste et il dit
voilà.
« Oui ».
Bon, pour le coup, est-ce qu'il pense à Navalny, par exemple ? Hein, puisque quand même les États-Unis d'Amérique ont sanctionné là début mars 7 hauts responsables russes suite à l'empoisonnement d'Alexei Navalny. Alors il explique ensuite que Vladimir Poutine en payera les conséquences et vous verrez bientôt le prix qu'il va payer. Hein, il continue quand même dans cette interview. Alors
il est énervé un peu.
Il explique en même temps qu'il veut travailler avec les Russes quand c'est dans notre intérêt commun. Je sais bien ce que ça veut dire. Alors, depuis qu'il est en poste à la présidence, M. Biden montre une certaine fermeté par rapport à la Russie, à M. Poutine, ce qui n'était pas le cas de M. Trump, qui était accusé d'être un peu laxiste ou de faire...
Il aimait bien son petit ami dictateur russe.
Voilà. Oui. Bon. Alors, du côté de la Russie, on a réagi, puisque le président de la chambre basse du Parlement, Vyacheslav Volodine, a reproché au président M. Biden d'avoir insulté tous les Russes et attaqué son pays. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Rybkov, a expliqué « Les États-Unis seront pleinement responsables d'une nouvelle dégradation des relations russo-américaines. Cela ne doit faire aucun doute. » Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, explique « Les propos du président américain sont très mauvais. Il ne veut clairement pas améliorer les relations avec notre pays. C'est de ce principe que nous allons désormais partir. » Et puis, évidemment, on attendait la réaction de M. Vladimir Poutine, qui aujourd'hui a dit « Attention, là il y a du propos, c'est celui qui le dit qu'il est. »
Ouais.
Sans mentir,
non, mais
c'est ce qu'il a dit.
On se croirait en cours de récréation.
La télévision russe. Alors bon, depuis, la Russie a rappelé son ambassadeur pour des consultations, paraît-il, mais enfin on sent que c'est fâché. Et puis alors, M. Biden commence aussi à se confronter avec la Corée du Nord, puisqu'après la diplomatie curieuse de M. Trump sur la question, hein, où au début, on, vous savez, donné lieu à un certain nombre d'échanges insultants et menaçants entre les États-Unis d'Amérique et la Corée du Nord avec M. Kim Jong-un. On s'attend un petit peu maintenant, effectivement, à la position de M. Biden. Alors, le secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique, Anthony Blinken, est arrivé en Corée du Sud, excusez-moi, cette semaine. Et au moment où il arrivait, c'est la sœur Kim Jong-un, c'est sa sœur cadette, qui mardi a délivré un charmant message à Monsieur Biden et à son administration. Si vous voulez dormir tranquille pendant les quatre ans à venir, vous feriez bien de ne rien entreprendre qui vous fasse perdre le sommeil. Là aussi, on sent tout l'art de la diplomatie qui se met en place. C'est le média du Parti du Peuple, le seul et l'unique Rondong Sim Moon qui a reproduit donc les propos de cette sœur cadette. Bon, on sent quand même que l'art de l'insulte de nos jours, c'est quand même un bon moyen, hein, pour faire de la diplomatie internationale. Alors, d'autres aussi qui ont des problèmes, peut-être un peu d'insultes parfois, c'est notre maire de Lyon, M. Grégory Doucet.
Bon, qu'est-ce qu'il a fait?
Bah, décidément, tout est mauvais dans le Doucet.
Comment ça, tout est
Alors,
mauvais?
J'ai lu cet article de Valeurs Actuelles qui est signé par auteur. On sent déjà qu'il y a de l'engagement là, de la part du signataire ou de la signataire. Il paraît qu'il faut mettre 4 minutes pour le lire. Putain, mais Valeurs Actuelles.
Tu veux dire que tu as lu un article de 4 minutes de Valeurs Actuelles aujourd'hui sans vomir?
Ah non, mais c'est surtout que si tu veux, je te montre.
Ah oui,
vous
ça
le
fait
voyez
une
pas.
Page, ouais.
C'est
ouais.
Même pas, c'est très même très pas. Court. Bon, les 4 minutes, voilà.
Les fachos lisent lentement, peut-être.
Ils sont outrés. Lyon, après les menus uniques, les écolos mettent en place un budget genré. Je vous lis. Comme le rapporte le Parisien mardi 9 mars à Lyon, Rhône, après la polémique sur les menus uniques sans viande à la cantine, on s'apprête à inaugurer un nouveau budget. Un budget qui veut tourner la page de la mandature précédente, et pour cause, il sera genré, selon les écologistes en poste. Un budget genré, qu'est-ce? Pour la première adjointe au maire, il s'agit d'évaluer toutes les lignes budgétaires de la ville pour voir si elles bénéficient autant aux hommes qu'aux femmes.
Ce qui est plutôt bien, du coup.
Je poursuis. Une manière de rétablir une certaine égalité homme-femme, donc, mesure prioritaire voulue par le nouveau maire Grégory Doucet. Dans leur viseur, une ville construite historiquement par des hommes pour des hommes. Et la municipalité de prendre des exemples concrets, selon elle, qui jouerait toujours en faveur des hommes ou des petits garçons, comme dans les cours d'école. Pour Florence Delaunay, adjointe écolo en charge des droits et des égalités, les cours sont généralement goudronnés pour permettre les jeux de ballon et qui jouent les petits garçons reléguant les petites filles sur les côtés. Lance l'élu qui voudrait surtout pas interdire aux garçons de jouer au foot, mais instaurer des activités jardinage. Donc il y a une espèce de manipulation du propos la mairie de Lyon qui veut effectivement faire en sorte que tous et toutes aient accès à des espaces partagés qui ne soient pas valorisés que sur le sport, que sur le physique, et donc que souvent sur les garçons.
Et si vous regardez, c'est vrai, dans les cours de récréation, en général, il y a un gros terrain de sport au milieu, et il n'y a que des garçons dessus. Hein. C'est un vrai problème de non-partage de l'espace.
Et la question, c'est donc, le budget genré va-t-il devenir une norme en France?
Ouais.
Oui, selon les écolos qui citent Brest, Montreuil ou Rennes. Mais heureusement... Mais les démarches ne sont partielles que pour le moment. Quand même. Alors, il y avait eu une demande du tribunal. On a eu la réponse du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté vendredi dernier les requêtes de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, la FDSEA, et des parents de Lyon et d'élus municipaux qui contestaient donc cette mesure des menus sans viande dans les cantines en raison de la crise sanitaire. Tout ça a été rejeté par le juge des référés. Alors, le recours se basait sur un article de 2011 qui fixe des règles nutritionnelles dans la restauration scolaire, selon lesquelles au moins 4 repas sur 20 successifs doivent avoir de la viande, je vous la fais courte. Et puis, la FDSEA avait déposé une requête estimant que pour savoir si ça avait des incidences que sur la filière agricole. Et là, encore une fois, le juge des référés a estimé que la mesure n'apparaît pas de nature à créer d'incidences graves pour les filières agricoles d'élevage. À côté de ça, Julien Normandie a expliqué qu'il rejetait l'option végétarienne quotidienne, obligatoire. C'est les municipalités qui vont décider, c'est bien, mais du coup, ça exclut une partie des établissements qui ne sont pas sous la gestion des municipalités. Et puis, Doucet continue à énerver, puisque nous avons appris que c'est un projet, hein, donc ça y est, ça va se mettre en place, que le boulevard de la Croix-Rousse va devenir piéton, puisque le stationnement...
Enfin, pas le boulevard, les trottoirs. Les trottoirs, oui. Qui étaient occupés par les voitures sur une règle d'habitude, hein, c'était, mais voilà, ils se garaient dessus. Le trottoir va être rendu à leurs utilisateurs et utilisatrices, c'est-à-dire les piétons. Ça énerve certains automobilistes qui aimaient bien se garer et ouais, sur les trottoirs et puis tenter d'écraser des enfants au passage, tout ça pour avoir des points. Donc là, voilà, maintenant, ils devraient être rendus à partir de samedi aux piétons et aux piétonnes.
Mais rien ne plaît jamais.
Non. Donc, nous faisons un Canu Info en direct, mais à distance, puisqu'il y a le couvre-feu à 18h. Nous ne pourrons pas faire le Canu Info en direct des studios de Radio Canu. Eh bien, nous ne pourrons toujours pas, puisque le couvre-feu va être repoussé d'une heure à 19h. Mais donc, on ne pourra toujours pas faire le Canu Info à 19h. Et voilà, je vous annonce que le couvre-feu se décale avec l'heure d'été, dit-il. Hein, c'est nos ministres. Voilà. Et nous, il y a un pseudo-reconfinement pour les 16 départements, mais ça, on n'est pas dedans. Donc, voilà. Bien évidemment, tout le reste n'avance pas, les vaccins, tout ça. Pas question de s'approprier les brevets. Il faut respecter le capitalisme, s'il vous plaît. C'est à moi de faire un truc, là, ou
oui,
bien
t'en prie.
Ah, mon petit plaisir du jour. Alors, chaque fois, je le donne, quand il y a un petit truc comme ça, ça sert à rien. Mais quand ça fait plaisir, c'est déjà bien. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, a sanctionné la chaîne réactionnaire CNews du groupe Canal+, d'une amende de 200 000 euros pour incitation à la haine et incitation à la violence, après des propos tenus en septembre dernier par le militant d'extrême droite connu, préféré de la chaîne, Éric Zemmour, sur les mineurs migrants isolés. Cette sanction financière est une première à l'encontre d'une chaîne d'information, a rappelé le CSA. On se rappelle que le 29 septembre dernier, lors d'un débat de l'émission Face à l'info, consacrée à la question des mineurs isolés, ça découlait de l'attentat devant les ex-locaux de Charlie Hebdo. Éric Zemmour avait déclaré sur les mineurs: ils n'ont rien à faire ici, ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont, il faut les renvoyer, il ne faut même pas qu'ils viennent. Voilà. Donc on imagine bien que ce propos était horrible. Ça avait suscité des réactions, et le parquet de Paris avait lancé une enquête pour provocation à la haine raciale et injure publique à caractère raciste. C'était juste après une condamnation du même Zemmour pour des choses à peu près identiques, pour son racisme permanent et sa xénophobie qu'il met en avant toujours dans cette chaîne, c'est News et ailleurs d'ailleurs. Voilà. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, a estimé que la maîtrise de l'antenne n'avait pas été assurée, d'autant plus que l'émission n'était pas diffusée en direct mais en différé, et ils l'ont donc pas modifiée malgré les propos qui rentraient dans le cadre d'une poursuite pénale possible. Donc le CSA avait déjà mis des avertissements, hein, sur la chaîne préférée d'Éric Zemmour, notamment sur ses propos sur l'islam habituel et sur la colonisation de l'Algérie. Mais ça, a priori, ça fait pas grand-chose. Bon, donc c'est une nouvelle sanction, c'est 200 000 euros, ça fait plaisir. Zemmour, il y a d'autres affaires contre lui. Le truc, c'est qu'on se dit, peut-être qu'à un moment, faut taper plus fort. Peut-être qu'à un moment, parce que c'est au portefeuille, cette chaîne, le but de Bolloré, du boss, c'est d'en faire une chaîne d'extrême droite française. Et lui, il est quand même près de ses sous. Donc 200 000 euros, c'est peut-être pas assez. Il faut peut-être mettre 2 millions d'euros d'amende pour que CNews et ses animateurs, animatrices et invités respectent juste la loi, c'est-à-dire de ne pas tenir des propos racistes. Ce serait peut-être pas mal. Voilà. Bon, bref. En tout cas, ça m'a fait plaisir, cette petite amende.
Alors, eh bien, écoute, moi, je vais te donner la suite de cette fameuse et première vente aux enchères de Bitcoin.
Ah, c'est ça, t'es 802 250 euros.
Oh, tu racontes toute
la somme. T'avais donné la somme tout à l'heure.
Ouais, je sais, c'est bien, tu as bien suivi. Ouais. Hier, donc, mercredi 17 mars, se déroulait pour la première fois une vente aux enchères de Bitcoin. Elle était organisée par le cabinet Capgemini et Morange. Et c'était suite, je vous avais raconté, à une saisie de l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués dans une affaire de cybercriminalité que 611 unités réparties en plusieurs lieux étaient donc mis aux enchères. Alors, c'était donc à Paris, cette vente, sous la houlette de la commissaire-priseur Maître Guylaine Capangi. Alors, il fallait déjà verser une caution de 1500 euros pour être éligible à la session du matin et 10 000 euros pour celle de l'après-midi. 4000 personnes s'étaient préinscrites et il y a simplement environ 1500 personnes qui ont été retenues, qui avaient validé toutes les demandes de dépôt de caution, de formulaire d'inscription. Alors on avait beaucoup de Français a priori, mais aussi des Anglais et des Belges. Il faut savoir que les frais de vente s'élevaient à 14,28%, toutes taxes comprises. Alors, il y avait des estimations, on en avait discuté. Pour la matinée, les lots étaient estimés entre 5180 euros et 94 200 euros. Ceux de l'après-midi, entre 235 500 euros et 942 000 euros. Donc, si vous avez tout suivi, bien écoutez, Laurent, le record de 942 000 euros n'a pas été atteint. Enfin, le record, l'estimation la plus haute. Les estimations avaient été fixées sur le cours mardi en fin de journée et la mise à prix réelle a été fixée mercredi par la commissaire priseur. Donc, tout ça, on pouvait le suivre en direct. Et c'était de la folie! Parce que c'est parti en sucette! C'est parti en cacahuète! Alors, le matin, c'était censé être des petits lots, vous savez, des 0,11 bitcoin à 2 bitcoin ou de 5 à 20 bitcoin. En fait, c'était des tout petits lots. Et 9h10, le premier lot est donc valorisé à 5180 euros, il s'est vendu 26 800 euros. Pour tout vous dire, ce qui s'est passé, c'est que d'abord, il y a eu une première enchère, hein. Très très vite, ça monte, et puis ça atteint 23 300 euros, et là, la commissaire priseuse décide de recommencer les enchères. Elle estime qu'elle n'a pas été claire sur ce qu'il y avait dans le lot. Elle pense que les gens ne savent pas ce qu'ils font, donc elle relance. Et puis bah, ça monte encore plus, 26 800 euros. Là, la commissaire priseuse réintervient en rappelant que mais bon, la vente est faite, hein, que c'est pas un bitcoin, mais c'est 0,11 bitcoin qu'elle est en train de mettre aux enchères. En fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'avec les frais dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'acheteur ou l'acheteuse va payer ces 0,11 bitcoin 30 627 euros. C'est-à-dire que ça fait une sacrée somme, c'est 6 fois plus que le marché. Là où tu peux aller acheter ça sur une plateforme. Donc quand je vous le dis que c'était du fou furieux et de vente aux enchères, les gens ont pété un câble. Bon, après ça s'est un peu calmé, mais c'est vrai que tout le monde était assez surpris par l'emballement sur quand même les offres. Et puis l'après-midi, donc là on atteignait des plus gros lots, jusqu'à ce fameux lot quand même au prix de 802 250 000 euros. C'est ce qu'a obtenu le lot 529, un lot de 20 bitcoins. Donc l'État a raflé pas mal d'argent, j'ai pas la somme totale, elle n'était pas indiquée. Mais c'est vrai que plusieurs personnes aussi ont acheté plusieurs lots. Donc il faut pas croire que c'est à chaque fois des petits individus comme ça qui ont acheté. Il y a des gens qui ont acheté beaucoup de lots et la commissaire priseuse a quand même été très très surpris par la vente en fait, par le montant de ces lots, ce que ça a pu atteindre. Et la question est de savoir si effectivement il n'y a pas eu un peu du buzz pour faire monter les prix et pour valoriser le bitcoin pendant qu'il y a une médiatisation, même si vous allez me dire le bitcoin, il n'y a pas besoin de médiatisation pour exploser. Mais voilà, c'est quand même tout ça très surprenant et c'est encore une fois beaucoup d'argent. On parle de carte d'identité maintenant.
Oui, alors je vais faire juste un truc très court hein, sur la nouvelle carte d'identité qui va arriver. En fait, elle est censée arriver depuis un moment. Hein. Il y a des infos qui traînent sur les sites internet de différentes préfectures depuis septembre de l'année dernière. Mais là, on a plus d'infos. Donc, on sait qu'elle va être de la taille d'une carte de crédit, ce que font maintenant majoritairement tous les pays. C'est beaucoup plus pratique. Elle sera plastifiée. Dedans, alors c'est l'Agence nationale des titres sécurisés, la NTS, qui propose un calendrier de déploiement, donc de mai à juin. Donc il y aura une petite puce à l'intérieur, vous me direz, c'est pareil, il y en a une Il y en a partout maintenant, des puces, un peu comme il y a dans le passeport. C'est un peu les mêmes infos qu'il y a dans un passeport actuellement. C'est-à-dire, il va y avoir des données dites biométriques avec vos empreintes, votre tronche, c'est ça, hein, et puis quelques petites infos comme ça, votre photo, bien, voilà, plutôt que de dire tronche, si vous voulez. Quelques petites infos biométriques. Et il y aura bien sûr un fichier associé, et ça c'est un peu moche. La CNIL déplore que ce fichier qui s'appelle TES dit des gens honnêtes, parce qu'effectivement c'est un fichier dans lequel tout le monde va être, sans avoir commis de délit, hein, adossé donc à cette carte d'identité nationale électronique, puisqu'on rajoute le mot électronique maintenant, va être interconnecté à d'autres fichiers français ou européens, et que le contenu des données vont être conservé 15 ans, alors que la carte d'identité a une durée de vie de 10 ans. Donc la CNIL avait condamné, bon, ça n'empêchera pas l'État de continuer de ficher sa population à travers cette nouvelle carte d'identité. On a l'habitude, on est déjà fiché avec le passeport, on est déjà fiché avec l'ancienne carte d'identité, hein, on avait déjà l'obligation de donner les empreintes, était gardé dans un ordinateur quelque part. Voilà, c'est juste une étape supplémentaire. Et c'est dommage que la CNIL condamne, mais que l'État n'en tienne pas compte. C'est, ça, c'est le côté triste. Sans rentrer dans le débat sur faut-il, a-t-on besoin d'une carte d'identité quand on est terrien, je répondrai non, bien évidemment. Mais dans ce cadre-là, là, on accepte qu'il y a la carte d'identité. Pourquoi être incohérent, pourquoi vouloir faire des fichiers et ficher en permanence la population, même quand il n'y a pas de besoin. Ben voilà, c'est toujours un petit peu triste d'avoir ces outils qui se mettent en place, ces outils de contrôle et de surveillance un peu plus importants chaque fois, chaque nouvelle étape. C'est un petit peu dommage. Le truc positif, c'est que ça a énervé des fachos. Et ça, c'est, je me dis finalement, je vais bien l'aimer quand même quelque part, cette carte d'identité malgré tout. Parce que il y a une petite partie écrite en anglais où c'est écrit Identity Card. Donc il y a notamment le boss de son groupuscule d'extrême droite, qui s'appelle les Patriotes, là, qui a dit « Ah mais je ne savais pas qu'il y avait d'autres langues autorisées en France que le français ». Alors d'abord, il est largué, puisque oui, il y a d'autres langues, les langues régionales sont autorisées, hein, monsieur Philippot, pour ne pas dire son nom. Mais l'anglais, c'est pas une langue régionale, mais comme la carte d'identité permet. Marc, ça pourrait presque être une langue régionale, en fait.
Ah bah, je pense que des fois, dans les back-office autour dans le bureau, hein, j'essaye de faire ma phrase en anglais, mais vous voyez, je suis trop nulle, j'y arrive même pas, je voulais faire une espèce de pot pourri.
Les anglicismes sont partout.
C'est vrai qu'au travail, je pense que ça peut être maintenant, à cause régionale. Beaucoup aussi de l'informatique et du numérique, une langue un peu régionale, quelque part.
Ouais. Bon, bref, c'était pas ça qui dénonçait le petit facho. Mais bon, voilà, ça m'a beaucoup fait marrer le fait que ce soit écrit en anglais. On lui rappellera que la carte d'identité permet, alors il est contre l'ouverture des frontières, comme tout xénophobe qu'il est, mais cette carte d'identité nous permet de voyager tranquillement dans n'importe quel pays de l'Union Européenne. Donc il faut bien qu'il y ait quand même une phrase d'une langue commune. Alors on pourrait discuter quelle est la langue commune, c'est encore l'anglais, même bien qu'on ait les Anglais ne soient plus dans l'Union Européenne. Mais voilà, c'est pour ça qu'il y a une partie en anglais. Comme il est peut-être xénophobe au point de jamais sortir de son pays, c'est peut-être pour ça qu'il ne se rend pas compte. Et puis il a vomi, paraît-il, parce que sur le coin en haut à droite, il y a un drapeau bleu avec des étoiles, et ça l'énerve et ça le fait vomir. Du coup, ça m'a fait rire, sa réaction. Alors que le vrai problème, c'est l'existence de ces cartes d'identité et des fichiers qui sont associés. Mais ça, bien évidemment, c'est la chose qui défend lui en tant que petit facho. Donc voilà, c'est tout. Tout ce que je voulais dire sur la carte nationale d'identité.
Alors, c'est terminé pour ce jeudi 18 mars 2021. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, bien évidemment. On vous laisse avec les émissions, les bandes continues, tout ce que vous pouvez retrouver aussi sur les blogs des émissions. Voilà, vous pouvez écouter en direct, évidemment, tout ce qui est enregistré et rediffusé sur les blogs. On vous souhaite une bien bonne soirée, une bonne fin de semaine. On vous dit encore une fois la semaine prochaine et ciao ciao.